Si ce podcast de Ciel et Espace vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en le notant sur votre application d'écoute préférée. Retrouvez toutes les actualités du cosmos sur ciel-et-espace.fr.
Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Bibring, auteur du passionnant « Seul dans l'univers » publié chez Odile Jacob. Jean-Pierre Bibring, vous nous expliquiez à quel point finalement la vie n'était pas apparue un jour et que c'était le résultat d'un long fil continu mais plein de bifurcations et que finalement la vie sur Terre aurait très bien pu ne pas apparaître ou en tout cas donner une chimie totalement différente. Donc si on vous comprend bien, la vie est donc réellement propre à l'évolution de la Terre et plonge ses racines bien en amont. Mais alors ça veut dire par exemple que vos collègues exobiologistes, ils perdent leur temps ?
Non. D'abord, personne, c'est rare que des scientifiques perdent leur temps parce que toute recherche, même si elle est ciblée sur quelque chose, peut être très importante parce que ça a été d'ailleurs mon cas quelque part, je ne dis pas que ma recherche est importante, mais je veux dire, on se branche, quand on a fabriqué des instruments pour aller sur Mars, c'était effectivement à une époque où on espérait trouver où l'eau s'est mise, est-ce qu'il y a encore des fossiles, est-ce qu'il y a des carbonates avec des fossiles dedans, etc. Et c'est en travaillant là-dessus qu'on a compris que la question était mal posée. Et je pense que nos collègues exobiologistes qui sont entraînés dans une pente qui a été essentiellement initiée, il faut bien le dire, aux États-Unis, ces pesanteurs idéologiques sont encore plus fortes, je pense, chez nous. Chez nous, on a la capacité à un moment donné de prendre du recul et de se dire, tiens, ça, c'était pas une bonne piste, et finalement, il y en a une autre qui arrive. Et je pense, par exemple, la question, pas encore sur le vivant, mais sur la diversité qui fait que la Terre est un problème unique. On a fait un film là-dessus. Je pense que ce film, on a pu le faire en France. On ne le ferait certainement pas dans d'autres pays. Donc, je pense que sur le vivant, c'est un peu la même chose. L'exobiologie part d'un terme, et je suis membre pourtant de la Société française d'exobiologie, qui suppose qu'effectivement la biologie peut être externe, exobiologie, comme astrobiologie. Je pense qu'il y a quelque chose de contradictoire dans les termes. Je ferai le pari que dans quelques années, la Société française d'exobiologie va accepter de changer positivement son terme. De même que je pense qu'à un moment donné, la notion même de vivant, comme la notion de planète est en train d'exploser quelque part et de changer, c'est pas simplement un objet qui tourne autour d'un autre, planète c'est tout à fait autre chose dans son évolution, je pense que pour le vivant ça va être pareil. Et je cite dans le livre un exemple qui me semble important de capacité de dépassement d'une notion qui a été pourtant très opérante. Alors, c'est vrai que le vivant c'est incroyable, parce que ça a été opérant, penser que ça a permis à Darwin de faire sa théorie, qui est une des théories les plus fulgurantes, mais que Darwin a fait un siècle avant que la biologie existe vraiment, qu'on sache ce que c'est que l'ADN, un gène, un chromosome. Bon. On a une notion comme ça incroyable en physique, la notion de force. Quand Newton se permet de dire c'est la même force qui fait tomber la pomme et tourner la Lune, j'ai dit ce mec est vraiment génial. Alors il y avait bien sûr Giordano Bruno, Galilée et quelques autres avant, mais enfin, non seulement il a proposé ça, mais il l'a formalisé comme une loi universelle où les masses interviennent, M' sur R2. Et puis deux siècles après, Rutherford et d'autres proposent la même chose pour un électron qui tourne autour d'un proton. Il y a une force pareille où la masse est remplacée par la charge et ça fait tourner l'un autour de l'autre. Incroyable, cette notion de force à distance qui permet d'expliquer, de prédire des choses. Mais tout d'un coup, on s'est dit, mais c'est de la magie noire cette affaire-là. Comment la pomme sait qu'il y a la Terre? Comment l'électron il sait qu'il y a le proton et qu'il se met à tourner autour? Il faut bien qu'il y ait de l'information qui passe. Alors, pour la gravité, Einstein a répondu, on sait... chaque masse, effectivement, modifie localement son environnement gravitationnel, et donc par sa courbure de l'espace. Et donc, on comprend bien. Mais pour les trois autres forces, il a fallu comprendre qu'il y a bien de l'information qui passe, et que cette information, elle transite par ce qu'on a appelé des bosons, des particules, qui sont là justement pour transmettre de l'information. Si un électron tourne dans un proton, c'est qu'on le lui dit quelque part. Et ces bosons, ils sont là pour ça. Et bon, dans un cas, c'est le photon qu'on connaissait déjà, mais pour les autres, ils ont même été proposés avant même d'avoir été finalement identifiés avec les bonnes propriétés, c'est-à-dire les propriétés qui rendent compte des forces elles-mêmes, au CERN en particulier. Donc, en principe, on ne devrait même plus enseigner la notion de force d'action à distance. C'est pas à distance, il faut bien qu'il y ait quelque chose, un vecteur de l'information.
Qui gênait déjà Newton, je crois, à l'époque.
Absolument, hein. Exactement. Et donc, je pense que pour le vivant et le non-vivant, c'est pareil. J'explique par exemple que quand on pose la question de la différence entre une pierre et un arbre, d'abord l'arbre tout seul ça veut rien dire, l'arbre il a des feuilles qui font intervenir et interagir avec l'extérieur vers le haut et puis des racines vers le bas, et que c'est un ensemble Et si on prend l'ensemble, la pierre aussi, il faut l'introduire dans un ensemble. Tout d'un coup, on s'aperçoit que l'essentiel de ce qu'on propose comme propriété caractéristique du vivant, ça s'applique aussi à l'inerte. Et qu'à un moment donné, d'ailleurs, dès qu'on dit que c'est de l'autocatalyse, de l'autoreproduction, dès qu'il y a le mot auto pour définir le vivant, moi je dis attention, le propre du vivant, c'est qu'il n'est pas du tout auto, justement. C'est que quand on lui coupe les relations au monde extérieur, extérieur à la cellule, à l'organe, à la population, ça s'appelle la mort. Donc le vivant, par définition, il n'est jamais autonome. Il piège précisément, ou il prend ses racines dans cette interaction avec le reste. Donc définir quelque chose de particulier au vivant est difficile. Dans mon livre, je propose une seule définition, enfin pas une seule définition, une seule propriété qu'on retrouve dans le vivant, qu'on ne retrouve pas dans l'inerte, qui caractérise effectivement cette forme particulière de la chimie organique qu'on appelle le vivant. Mais quand on voit ce qu'est cette propriété liée à l'hérédité des fonctions acquises, on s'aperçoit que construire la capacité d'avoir cette hérédité avec ces protéines, ces ribosomes et tout ça, ça suppose une succession incroyablement contextuelle de réactions qu'on n'a aucune chance de trouver ailleurs.
Ah, vous avez des arguments qui sont forts, hein, qui sont pertinents, et on a envie de se laisser séduire, et pourtant on a aussi envie de résister, Jean-Pierre Vibring, peut-être parce qu'on est encore effectivement noyé dans ce dogme dont vous parlez, de la pluralité des mondes. Alors, j'avais quand même envie de vous poser quelques questions. Est-ce qu'on ne peut pas tout de même imaginer que l'évolution qu'on a bien comprise, buissonnante, foisonnante et sans direction de la chimie, notamment dans l'univers, ne pourrait pas converger vers des formes à peu près identiques? On parle de temps en temps d'évolution convergente, notamment on dit que l'œil dans l'évolution des espèces a été inventé plusieurs fois de manière différente. Donc finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir à l'échelle de l'univers le même mécanisme et des évolutions convergentes?
Il y a très certainement des propriétés semblables que l'on retrouve, enfin que l'on considère comme semblables parce qu'on ne rentre pas assez. Il y a du volcanisme ailleurs que sur Terre. C'est pas... La plupart du temps, ce n'est même pas la même source d'énergie qui est derrière, mais on peut effectivement considérer qu'on peut faire du volcanisme de différentes manières, et ça se solde par la même chose, de la lave qui crache très haut. Sur Io, il y a du volcanisme qui n'a pas du tout la même origine que le volcanisme terrestre. C'est de la radioactivité dans un cas, c'est des effets gravitationnels dans l'autre, mais bien sûr qu'on peut avoir des propriétés comme cela, et que des fonctions que vous appelez la vue puissent aussi naître de bifurcations différentes à un moment donné, se retrouver dans des propriétés que l'on considérait être semblables, pourquoi pas, c'est vrai. Mais d'une part, on utilise peut-être le mot de vue aussi pour masquer des différences dans la manière des choses. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas simplement qu'il va y avoir des propriétés. Il s'agit d'un ensemble d'une propriété. Je prends toujours cet exemple. On est à peu près 10 milliards d'individus sur Terre, d'humains. À un petit facteur près, il y a autant d'humains sur Terre que de planètes dans la galaxie. Personne ne s'étonne qu'on soit tous différents, parce que, sans l'avoir ni calculé ni même pensé, 10 milliards, c'est rien comparé à le nombre d'arrangements possibles de 24 chromosomes les uns avec les autres. C'est bien plus que des milliards, c'est bien plus que des milliards de milliards. Eh bien, c'est la même chose pour l'évolution. Quand on prend tous les processus, on n'en connaît qu'un tout petit nombre, mais la chaîne de réaction qui permet à un moment donné d'avoir fabriqué des ribosomes, je parle toujours de ça, on va penser que je suis obsessionnel sur les ribosomes, mais ça me paraît être exemplaire et symptomatique de chaînes comme ça dont on peut se dire, vu le nombre de réactions qu'il y a eu, le nombre de propriétés contingentes qu'il a fallu mettre ensemble à un moment donné et dans le bon ordre, on se dit que c'est un petit peu comme pour les humains. Bien sûr qu'il va y avoir d'autres réactions qui vont peut-être paraître semblables. C'est-à-dire qu'on va peut-être, au lieu de ces 20 acides aminés qu'on utilise nous, enfin 19 plus 1 la glycine, qui ont tous une chiralité particulière, sur les plus de centaines qui existent, on peut en supposer d'autres, au lieu d'avoir des pentoses, c'est-à-dire des sucres tous droits pour la chiralité, mais tous à 5 atomes de carbone, on pourrait imaginer qu'on va faire des réactions avec d'autres types de sucres. Et bien sûr, et je suis convaincu que ça existe et que ça se trouve ailleurs, mais rien de tout ça va conduire à ce qu'on appelle réellement, ou ce qu'on devrait appeler réellement le vivant, c'est-à-dire quelque chose qui est capable en particulier de faire cette hérédité des fonctions acquises, qui n'est la seule propriété dimensionnante pour le vivant. Tout le reste, à savoir qu'on a quelque chose qui interagit avec son environnement, mais tout système inerte quasiment le fait aussi. Si vous mettez du silicium dans un bol, quand il va se fabriquer des plages de silicium et cristalliser, il va prendre en compte... ce dans quoi il est, ça va introduire des dislocations, des défauts ponctuels, etc., au même titre que des systèmes dits vivants. Donc, regardons de près ce qui caractérise réellement le vivant, essayons de regarder sa différence avec l'inerte, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, c'est un peu comme pour la Terre tout à l'heure, ce n'est pas que sa distance à l'étoile qui compte. Pour arriver, vous ne ferez pas ce que nous sommes uniquement avec un objet qui est à la bonne distance, il faut tout le reste. Et tout le reste, c'est 4 milliards d'années d'évolution, 5 milliards d'années d'évolution, avec des bifurcations milliardaires qui, à chaque fois, vont dépendre du contexte. Et si vous en supprimez une, eh bien, vous n'avez pas le point final.
Ça signifie aussi que finalement, la diversité des exoplanètes, qui est souvent un argument finalement en faveur, enfin qui est souvent présenté comme un argument en faveur de la vie partout dans l'univers, hein, des planètes et des contextes très, très, très différents, donc autant de possibilités de vie ailleurs, vous, d'une certaine manière, vous dites... la diversité de ce qu'on observe n'est pas assez grande comparée à la diversité de ce qui est théoriquement possible.
J'ai dit à un moment donné que comme on ne peut jamais avoir l'identique dans l'évolution, ni dans les conditions initiales, ni dans la séquence de bifurcation, comme je dis, c'est ça qui est la naissance de l'identité. Il y a une identité de chacun des objets dans l'univers, comme de chacun des humains, parce que l'identique n'existe pas. Et il ne peut pas y avoir d'identique à cause à la fois de ce que Poincaré a sorti comme théorie à propos du chaos. Vous modifiez un tout petit peu des conditions initiales et ça peut diverger très rapidement. Et ça, on le voit dans tous les objets que l'on observe à quelque échelle dans l'univers. Donc, c'est vrai que l'argument du nombre d'objets planétaires, c'est-à-dire des milliards dans une galaxie, des milliards de galaxies, a été utilisé ou est utilisé pour dire qu'il y a tellement de cas que forcément, on va retrouver au moins deux pareils. Et là-dedans, à mon avis, il y a deux erreurs. La première, c'est de penser que des milliards de milliards, c'est l'infini. Dans le langage courant, ça l'est, mais uniquement dans le langage courant, je l'ai dit, sur le nombre de combinaisons possibles ou d'arrangements possibles des chromosomes. Ça, c'est la première chose. L'univers n'est pas infini. Et d'ailleurs, on aurait peut-être pu le dire dès le début, ceux qui ont prôné la pluralité des mondes sont des gens qui partaient de l'univers, de l'idée que l'univers est infini. Épicure a basé sa proposition sur l'univers, sur le fait que l'univers est infini, et dans un monde infini, il y a forcément une infinité de mondes comme le nôtre. Et
c'est logique.
Voilà, c'est cette logique-là, ce qui n'est d'ailleurs pas entièrement vrai. On peut avoir un infini sans qu'on se retrouve, nous, en train de dire la même chose ailleurs. Mais bon, il peut y avoir, et Giordano Bruno a dit la même chose. Lui, sa rupture, tout prêtre qu'il était, c'était de dire non, l'univers n'est pas limité à la sphère des fixes avec le monde de Dieu au-delà, il est infini. Et il mettait Dieu à l'échelle atomique partout, quoi, mais pas dans l'univers. Et à partir du moment où l'univers est infini, sans d'ailleurs se référer à Épicure, il dit, dans un monde infini, il y a forcément des mondes comme le nôtre. Et c'est ça qui a été, ce pourquoi d'ailleurs il a été brûlé, hein, il a abjuré tout sauf cela. Eh bien, pour les exoplanètes, je dirais c'est un peu pareil. Il y en a beaucoup, plus on en a, plus on en découvre, mais toutes différentes, pour l'instant en tout cas. Et on va les trouver nécessairement toutes différentes. Pourquoi ? Parce que plus on va en découvrir, plus on va s'apercevoir que ce qui caractérise chacune d'entre elles, c'est des choses qui ne sont pas que leur nombre, leur distance à l'étoile, ce qu'on fait aujourd'hui. Même les composés majeurs de l'atmosphère, si on trouve du CO2, H2O, ça ne suffira pas à décrire l'évolution de l'objet qui, sur Terre, en tout cas, prend la forme du vivant parmi toutes les propriétés.
Ça signifie aussi, je fais un petit saut, mais... on a parlé tout à l'heure du regard que vous aviez sur l'exobiologie, donc une discipline qui allait, selon vous, changer de nom sans doute à terme. Vous êtes très critique aussi à l'égard de projets comme la terraformation, par exemple.
Non, mais bien sûr, mais ça, je pense que je ne suis pas le seul, là, quand même, pour le coup, pour plusieurs raisons. La première, c'est que dire qu'on peut aller ailleurs, fabriquer un environnement dans lequel, c'est ça dont il s'agit, l'homme pourrait, ou l'homme au sens même très large, pourrait s'adapter et survivre, c'est très anti-darwinien quelque part. C'est ne pas comprendre que l'homme lui-même, il est le résultat d'une succession d'adaptations à des environnements eux-mêmes qui changent, et que Mars et la Terre ont eu des évolutions seulement différentes pour qu'on ne va pas nous recréer ce que 4 milliards d'années n'ont pas été capables de faire sur Mars. Parce que si Mars n'a plus de grand champ magnétique, s'il n'a plus une atmosphère qui queue, etc., c'est pour des raisons de physique de base liées à ses propriétés. Donc on ne peut pas recréer ailleurs quelque chose qui est intimement lié à l'évolution de la Terre, qui est l'environnement dans lequel l'homme peut vivre et dans lequel le vivant peut évoluer. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne mettra pas des hommes sur Mars, mais on les mettra dans des bidons, comme dans un avion, comme dans un train, comme partout dans la station orbitale. C'est des bidons faits d'atmosphère terrestre avec des nourritures terrestres. Donc on ne va pas recréer l'ensemble de Mars, ce que veut dire la terraformation, pour refabriquer une Terre martienne. Non, on pourra envoyer des bidons sur Mars. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on le fera, mais on pourrait le faire. Donc c'est ça que je veux dire. Mais pire que cela, quand Elon Musk, puisque c'est souvent de lui dont on parle maintenant, ose dire qu'il est prêt à envoyer de 10 à 100 000 personnes là-bas quand la Terre sera inhabitable, je veux dire, contribuer à rendre la Terre inhabitable pour un certain nombre d'espèces, dont l'espèce humaine, et se dire, vous inquiétez pas, de toute manière, on ira ailleurs à terme, c'est scandaleux parce que c'est un luxe insolent, d'une part, de penser des voyages interplanétaires à cette échelle-là, mais c'est surtout fondamentalement faux. Et bien sûr, le résultat de tout ça, c'est que si la Terre est unique, c'est que c'est un ensemble limité, limité pour ses ressources, limité dans l'espace, que tous les enjeux sont planétaires et qu'on ne fait qu'un et qu'il faut faire avec, mais qu'on peut faire avec. Et ce livre n'était pas là pour là, ce n'est pas un livre d'ordre politique qui donne des directions dans lesquelles je pense qu'il faudrait aller pour les enjeux de ce siècle, mais les enjeux sont à des échelles de temps et d'espace telles, d'espace la planète, de temps des décennies et non pas des millénaires, qui font que je pense que la conviction que l'on acquiert progressivement de l'unicité, non pas, c'est pas l'unicité en soi, c'est pas la solitude, j'aimais pas trop le titre d'ailleurs pour ça, c'est pas qu'on soit seul au sens de la solitude et que c'est terrible, non, c'est que le fait qu'on soit le résultat d'un processus unique dans sa complexité lui-même, c'est-à-dire dans sa diversité qui aboutit à ça, doit nous faire prendre conscience qu'on a une responsabilité globale, mais que si la Terre est unique, c'est la Terre globale et que l'homme est profondément intégré dans tout le reste, et intégré en particulier dans la nature, cette dichotomie entre l'homme et la nature, qui provient en tout cas chez nous de la Genèse elle-même, hein, au sixième jour, il y avait déjà la nature, les animaux et la végétation, et on a un mal de chien à intégrer l'ensemble de ce que la Terre a fabriqué, et donc je pense que la nature, qui n'est même pas un concept scientifique vraiment très raisonnable, mais bon, l'homme dans son environnement vivant, mais le vivant dans l'environnement planétaire global, doit être compris comme unique et intégré et interdépendant.
Ce qui nous donne une grande responsabilité en réalité.
Oui, mais aussi une source d'enchantement énorme. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on sera capable de modifier des paradigmes et qu'on verra que la seule possibilité d'y arriver, c'est de travailler ensemble, parce qu'on fait... Ça changera en particulier la notion même d'échange entre les peuples, comme on dit en général, entre les pays. Et on verra que ce n'est pas par la force qu'on gagnera, mais par la coopération. Et mon espoir, et si un jour j'ai le temps d'écrire un autre livre, ça sera sur le thème de la coopération. Et pour ça, l'astrophysique spatiale est remarquable. On peut travailler, nous travaillons avec des pays qui, sur d'autres plans, seraient des gens avec qui on nous dirait qu'il ne faut pas travailler. La coopération est vraiment le moteur qui permettra d'affronter les défis qui sont planétaires dans ce siècle. On pense bien sûr aux défis climatiques, mais tous les autres dont on nous abreuve à juste titre actuellement. Il faut travailler ensemble et on peut travailler ensemble. Mais le ensemble, c'est non seulement les humains ensemble, mais c'est les humains avec l'ensemble de l'environnement dans lequel ils évoluent.
Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Pierre Bibring pour votre participation à cette émission. Je recommande une fois de plus la lecture de votre livre passionnant « Seul dans l'univers » publié chez Odile Jacob. Il bousculera peut-être la conviction de vos lecteurs, mais les fera à coup sûr réfléchir. Cette émission, comme chaque mois, a été présentée par David Fossé, réalisée par Nicolas Franco. N'hésitez pas, chers auditeurs, à soutenir Ciel Espace en vous abonnant à notre offre d'abonnement premium. Rendez-vous sur notre site web, dans les pages du magazine, et bien sûr le mois prochain pour une nouvelle émission.